de Sécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Davy. Comment vas-tu?
Très bien, merci de m'accueillir à nouveau. Ça y est, on reprend pour 2025. Oui.
Ça a été difficile, j'ai été un peu chargé, j'ai un peu de misère à m'organiser. Donc, tout a voilà. Bougé, la vie étant ce qu'elle est. Et justement, en termes de choses qui bougent, on a une situation géopolitique très fluctuante depuis le début de cette année, depuis le début de 2025. Avec l'agent Orange qui est un agent de chaos finalement, essentiellement, et nous oblige à réfléchir beaucoup de choses, notamment au niveau de la souveraineté de nos données, la propriété et le fait que les compagnies américaines en technologie sont très ou trop présentes à l'international. Donc ça a maintenant des conséquences qui, il y a moins d'un an, n'étaient pas aussi importantes que celles-là. Je vais te laisser un peu commencer là-dessus.
Oui, très bien, oui, merci. Comme tu le dis, effectivement, le début d'année est un peu rock'n'roll pour tout le monde. D'abord, puisqu'on a notre business à gérer, mais notre business, comme tous les business, est impacté par le déséquilibre international dont on fait les frais suite à l'arrivée, à la réélection de notre ami ennemi préféré, Donald Trump, qui a repris le pouvoir aux États-Unis, a été intronisé grand chandelier, comme dirait l'autre, de l'État, et a décidé de mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière, et pas forcément dans le bon sens du terme, hélas. Et ça rebat un peu les cartes, puisqu'il s'avère que aujourd'hui les États-Unis se déclarent comme... Alors, on va faire la petite blague... Il s'était présenté en disant « America first » et c'est en train de se transformer en « America alone ». L'America seul contre tous et toutes, seul contre le monde entier, seul pour soi, et à prendre des décisions unilatérales dans tous les sens, avec comme effet que ce qu'on pensait être un allié, alors un allié ça ne veut pas dire forcément un ami, ça veut dire quelqu'un avec qui on s'associe temporairement pour avoir un accord parce que ça nous arrange, est en train de se révéler effectivement plutôt un ennemi. Hein, on disait il y a un dicton en géopolitique, on dit on n'a pas d'amis, on a soit des alliés, soit des vassaux. Ouais. Soit des gens avec qui on s'associe parce qu'on pense qu'on a une position, on va dire, commune, mais on a un rapport de puissance équivalente, donc on ne peut pas trop se taper sur la gueule parce que sinon ça risque d'aller trop loin. Soit on a une position de pouvoir dominant et on assoit notre pouvoir sur la tronche des autres. Et aujourd'hui, Donald Trump est persuadé d'être justement le grand dirigeant de la plus grande puissance mondiale, ce qui symboliquement est réel, hein, financièrement, c'est la plus grande puissance mondiale aujourd'hui. Et c'est pas une puissance juste financière, c'est une puissance aussi économique, technologique, et c'est là où ça nous touche, nous, directement. Et cette technologie est présente à peu près partout, dans nos OS, dans nos machines, dans nos outils connectés, dans notre armement, dans notre médecine. Et donc, quand l'allié d'hier devient l'ennemi d'aujourd'hui, ça nous pose des questions sur les outils qui viennent des États-Unis. Alors, je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent sont conscientes de ça, mais je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu cette expression, on parle de techno-État. Techno-État, c'est-à-dire un État, donc l'État, c'est quoi? C'est l'organisation sociale d'un pays. C'est un État qui décide de se structurer pour dire, on est une communauté dans un territoire, il faut qu'on s'organise entre nous, et donc on désigne une structure d'organisation, ça sert à ça, un gouvernement et un État, ça sert à organiser l'organisation sociale d'un pays dans ce qu'elle incarne. Le techno-État, c'est quand la technologie devient l'arme ultime de tout, où on est persuadé que tout est technologie. Ce qui n'est pas faux aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on est quand même dans un monde totalement interdépendant des outils informatiques. On en connaît quelque chose, puisque à nous deux, c'est notre spécialité, c'est une de nos spécialités, de nos domaines de prédilection. Mais couper l'informatique mondiale, et le monde retourne au Moyen-Âge, hein, littéralement, on sait trop bien qu'on en est ici aujourd'hui. Hein. Il n'y a plus aucune institution bancaire qui ne soit pas une entreprise d'informatique avec une licence bancaire. Il n'y a plus aucun hôpital qui ne tourne pas avec des systèmes informatisés. Il n'y a aucun système d'État gouvernemental qui ne tourne pas avec des systèmes informatisés pour enregistrer les nouvelles personnes qui naissent, enregistrer tous les États, les changements d'État, des relations... des personnes, si vous vous mariez, vous divorcez, si vous avez voté, etc. Tout ça, c'est informatisé, parce que l'informatique est un outil extrêmement pratique, qui peut nous permettre de centraliser énormément de choses, de le faire vite, de le faire bien avec du contrôle.
Oui, c'est, on peut l'associer à la révolution industrielle qui a lieu en Europe, notamment avec l'arrivée du charbon, l'arrivée des machines à vapeur et ainsi de suite, qui a changé la face de la société occidentale à cette époque-là. La société d'information dans laquelle on est, donc technologique, un peu comme tu mentionnes, a le même rapport qu'on a, c'est que si on avait enlevé le charbon il y a, à l'époque de l'industrialisation, on aurait eu, justement, on serait retourné très, très, très en arrière, comme maintenant si on enlève l'informatique, ou les logiciels, tous ces éléments-là qui font partie de notre quotidien. Puis, c'est, les gens ne mesurent pas à quel point on est envahi par ces, genres, ces éléments-là. Les automobiles le sont, nos maisons sont de plus en plus connectées, même la fonction de l'État est de plus en plus connectée. Et d'ailleurs, ça crée un certain nombre de soucis, surtout quand on embarque dans les volets de souveraineté dans lesquels on va discuter.
Alors, la souveraineté, on peut voir, il y a deux définitions, si je regarde juste le dictionnaire. C'est l'autorité suprême, tout court, voilà, d'un souverain, d'une nation, etc. Ou les caractères d'un État qui n'est soumis à aucun autre État. Donc c'est ça la souveraineté. La souveraineté, ça veut dire qu'à un moment donné, un pays dit « moi, il me faut les moyens de pouvoir prendre mes décisions en totale, complète et forte autonomie, sans aucune interdépendance avec qui ce soit d'autre que nous-mêmes ». C'est ça, assurer la souveraineté d'un État. Alors, je sais bien que cette notion aujourd'hui, en France, par exemple, ces dernières années, elle a été assez galvaudée parce que c'est souvent quelque chose qui a été utilisé par les partis d'extrême droite pour parler de nationalisme. L'autonomie d'un État n'a rien à voir avec le nationalisme. C'est un raccourci qui a effectivement été, on va dire, détourné pour un discours. Mais parler de souveraineté dans un pays, ça n'a rien à voir avec le nationalisme, c'est-à-dire de prévaloir la nationalité d'un peuple sur d'autres peuples avec des histoires de supériorité, de race, etc. On n'en est pas là. Là, on tombe dans des choses qui sont tout à fait, qui n'ont aucun sens, qui sont immorales, qui sont non éthiques. Ça ne nous intéresse pas. La souveraineté d'un État, c'est s'assurer qu'un peuple dirigé par un gouvernement dans un territoire précis et identifié comme une communauté puisse avoir les moyens de faire vivre cette communauté en indépendance et sans interférence tierce. Et c'est là où on va tomber sur ce qui est en train de se passer, qui amène à un beaucoup plus gros risque. On le disait en préparation, cette conversation, on aurait pu avoir la même il y a 4 ou 8 ans. Mais elle n'aurait pas le même degré de réalité des risques dont on va parler. C'était des risques qu'on supposait avant, même si on savait qu'il y avait quand même déjà ces risques. Le risque, c'est quoi aujourd'hui? C'est que, bah, comme tu l'as dit, l'informatique a pris la place, ça nous a simplifié la vie. L'informatique fait plus de choses qu'un être humain, donc c'est pratique. Hein. On pourrait faire la même chose avec l'IA aujourd'hui, c'est juste une évolution supplémentaire, un moyen de faciliter le boulot potentiellement, voilà, de faire qu'on ait moins d'efforts à faire. Le problème, c'est qu'il faut des outils informatiques. Ces outils informatiques, le principal outil informatique qu'on utilise, ça s'appelle un système d'exploitation. Un système d'exploitation, c'est une fenêtre entre la machine et l'humain. C'est ça. Vous avez un ordinateur. Un ordinateur, ce sont des composants physiques, électroniques. Vous avez un être humain en face, c'est de l'organique. Ben, pour faire la liaison entre les deux, il a fallu créer une fenêtre. Et oui, Windows ne s'appelle pas Windows parce que Bill Gates a mis les fenêtres, mais parce qu'il voulait créer une fenêtre sur le potentiel de la machine. Ce qui, finalement, le nom est plutôt bien trouvé. Et Windows, par exemple, fait partie de ces OS qui, aujourd'hui, ont une homogénie mondiale, sont présents partout. Ils ont un monopole, parce qu'il y a des OS open source, mais ils ont quand même une présence internationale très très forte. Avec, par exemple, aux États-Unis, dans les années 90, des accords signés entre l'État et les ministères, par exemple, de l'éducation pour être présents dans les écoles, ce qui crée une habitude culturelle, ce qui crée des populations qui sont habituées à utiliser ces outils. Et cet outil est fort pratique en soi. Moi, j'ai rien contre Windows, j'en ai chez moi, ça me permet de lancer mes applications, mes jeux. Ça s'installe aujourd'hui en quelques secondes, on n'y pense même plus. Pour ceux qui ont connu les installations de Windows 95 ou 98 ou Millennium, enfin voilà, on sait comment c'était plus complexe. Donc, on a un outil extrêmement pratique dont la dette technique, finalement, nous apparaît. La dette technique, hein, c'est tout ce qu'on fait qui nous prend du temps, de l'argent, de l'énergie, mais qui ne rapporte pas de valeur. Donc, c'est tout ce qu'on aura à faire de maintenance pour le gérer. Et je fais la blague sur justement comment on le gérait il y a 20 ans en arrière. Moi, quand j'ai commencé à le gérer, effectivement, à titre professionnel, on faisait du Windows 98, on faisait du XP, il fallait l'installer, il fallait le gérer, il fallait l'intégrer. c'est plus facile à faire aujourd'hui puisque ces OS sont devenus très très user friendly et très pratiques. Et donc il y a un aspect de fainéantise que je peux totalement comprendre qui fait que les entreprises et les États ont dit bon ben il y a un OS fort pratique. On a l'habitude de l'utiliser, on a des communautés d'utilisation, on a même des pratiques des gens qui sont nos employés, qui sont pas forcément rodés à l'informatique. Bah oui, Raymond et Janine à la compta, c'est pas leur boulot de faire de l'informatique, leur boulot c'est de faire de la comptabilité. Par contre, ils ont Windows à la maison, donc ils l'utilisent aussi en entreprise, c'est pratique, c'est facile pour nous de créer une culture et une pratique. Et c'est un aspect qu'il faut surtout pas sous-estimer, c'est très compliqué de faire entrer de nouveaux outils dans une communauté. Il y a un aspect de difficulté, d'apprentissage, d'appropriation qui est réel. Donc, on a cette facilité. Et on ne se pose pas trop de questions. On dit oui, c'est Microsoft, on les connaît, oui, ils font plein d'argent, on pourrait discuter de l'ultralibéralisme, du capitalisme, ok, mais bon, c'est là, c'est pratique, c'est dans nos machines, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Et dans un monde en paix, on pourrait se dire, c'est pas très grave. C'était déjà un peu grave, mais c'est pas si grave que ça. Sauf qu'on n'est pas dans un monde en paix. D'accord? Donc oui, on est en guerre. En guerre stratégique, on est en guerre sur les soft power, et on est en guerre sur les produits. Parce que ces outils-là, demain, eh bien, le gouvernement d'un État, d'un techno-État comme est le gouvernement américain, peut décider de dire à Microsoft, au fait, ces pays-là ne sont plus nos alliés et on leur coupe l'accès aux produits. Vous allez me dire, mais non, ce n'est pas possible. Alors, si vous me dites, mais non, ce n'est pas possible, je pense qu'il va être temps de se réveiller. Vous êtes en 2025, je vous invite à vous renseigner sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis. À vraiment se renseigner ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Alors, je pense que pour nos auditeurs, auditrices canadiens et québécois, vous vous renseignez beaucoup. Les Européens, les Français qui vont nous écouter, peut-être s'en soucient un peu moins, ont tendance à croire que c'est un peu loin. Non, c'est réel, il est en train de se passer des choses gravissimes. Et oui, cette logique-là, ce risque de se faire couper l'accès à nos propres outils est un risque qui est en train de devenir complètement réel. Donc, on va énumérer, nous, après, un peu les risques qui vont aller avec tout ça, mais c'est quelque chose qui est réel.
Pour ceux qui douteraient un peu de ça, c'est juste voir le blocage avec la Russie. Lors de la guerre en Ukraine, maintenant, aucun logiciel nord-américain ne peut être vendu avec la Russie, pas juste nord-américain, mais principalement. Apple ne peut plus vendre des choses là, Microsoft ne peut plus vendre des choses en Russie, et ainsi de suite. Donc, ces actes-là sont réels et ils sont respectés par les compagnies américaines d'ailleurs. Donc, ces représailles-là existent, sont utilisées largement parce que c'est une des armes que les Américains aiment beaucoup utiliser ce genre de choses-là. Là, Trump aime beaucoup les tarifs, mais au-delà des tarifs, il y a d'autres leviers qui sont largement utilisés pour arriver à ça. En Chine, il y a eu un blocage d'utilisation de certaines technologies ou d'éléments comme ça. Donc, c'est un outil que les Américains maîtrisent, utilisent largement. Et c'est pas juste parce que nous, Occidentaux, on n'a jamais été vraiment affectés de façon significative, parce qu'ils l'ont déjà fait, que c'est inexistant et que ça ne se reproduira pas et ça ne touchera pas nous aussi. Là. Donc, c'est en ce sens-là, faut pas se leurrer. Là.
Et tu le dis très bien, on est confortable dans nos petites zones où nous, ça ne nous est jamais vraiment arrivé, mais on sait très bien, pour ceux qui s'occupent de ce secteur-là, que ça existe depuis des décennies dans d'autres pays. Il y a des pays dans lesquels certaines applications sont interdites, certains OS sont invendables. J'ai connu des produits que je délivrais comme ça, où on n'avait même pas le droit de délivrer des cours à des gens qui venaient de certains pays, carrément. Interdit de former les gens sur le produit, littéralement. Donc oui, ça peut nous arriver. Je vous donne l'exemple, hein, tout bête. TikTok a été bloqué aux États-Unis quelques heures, juste avant l'intronisation de Donald Trump. Donc, est-ce qu'un État comme les États-Unis peut bloquer une application très populaire de ce type-là? Oui. Et s'ils ont envie, si ça peut servir de levier de négociation? Oui. Et là, donc, on a effectivement, comme tu le dis avec les tarifs, les taxes douanières que les États-Unis imposent partout pour faire pression sur les États, on a cette volonté aujourd'hui d'ingérence d'un État. Donc là, on tombe sur le sujet de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on a un État qui dit « Mais moi, j'ai envie de venir chez vous, vous emmerder pour vous forcer à faire ce que j'ai envie. » Donc ça s'appelle des ingérences politiques. Là, en France, au moment où on vous parle, il est sorti hier un scandale puisque l'ambassade d'Amérique a contacté plusieurs entreprises françaises pour leur dire « Au fait, si vous voulez bosser avec nous, il faut mettre fin aux politiques d'inclusion dans vos entreprises. Sinon, on arrête de bosser avec vous. » Ce qui s'appelle donc une ingérence. D'abord, bon, bah, parce que les Ricains, vous faites ce que vous voulez, mais on vous emmerde. On fait ce qu'on veut aussi. Alors, il faut comprendre, c'est une notion qu'on a déjà parlé, je pense, dans d'autres sujets, l'extraterritorialité du droit américain et de la culture américaine. Ça veut dire quoi l'extraterritorialité? Ça veut dire qu'une entreprise américaine ou un citoyen américain est pendant toute sa vie assujetti à l'identité américaine et aux lois américaines. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous êtes un citoyen américain puis vous venez émigrer en France pour vous installer en France, pendant 5 ans, vous allez en continuer à payer vos impôts aux États-Unis. Alors vous n'êtes plus résident. En France, ça n'arriverait pas. En France, à partir du moment où vous partez au Canada ou aux États-Unis, vous vivre, dès la première année, si vous pouvez prouver que vous résidez sur place, si vous passez plus de temps sur ce territoire-là qu'en France, alors vous finalisez vos impôts de l'année d'avant et c'est terminé, vous n'en aurez plus. Ça veut dire qu'une entreprise américaine, quand elle vend des produits en France, au Canada ou au Japon, la loi qui est censée s'appliquer, c'est la loi américaine pour eux. Et donc, dans leur tête, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, là où ils veulent, même dans les autres États. Et vous voyez que là, on touche littéralement au sujet de la souveraineté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a choisi d'imposer chez nous des outils qui sont étiquetés produits américains, alors on a le risque que le produit américain vienne avec les contraintes américaines, avec les décisions américaines. Donc le risque, effectivement, est que les États-Unis changent de braquet, décident que ben, les tarifs ou les taxes douanières, ça suffit pas, on va vous emmerder encore plus. Tiens, on vous coupe le fonctionnement de l'outil. Et on l'a démontré, ça existe déjà, ça se produit déjà dans d'autres pays. Vous pouvez aller voir en Iran, vous pouvez voir la Chine, vous pouvez voir la Russie, la Corée du Nord. Oui, les outils qui sont, même s'ils sont installés, ils sont bloqués. Ils sont bloqués soit localement par les États qui veulent pas les voir, soit ils sont bloqués à distance par les éditeurs qui sont capables d'empêcher soit l'installation du produit, soit soit l'activation, soit l'usage des licences, soit les mises à jour, par exemple. Et donc, ça veut dire que dans notre confort, et là, je reviens sur notre petite feignantise qu'on a eue jusqu'ici de se dire, bon, ben, on va utiliser d'autres outils comme des outils open source, mais même ça, ça pourrait être remis en cause, ou des outils tierces sous licence. Ben, vous avez plein d'entreprises qui ont fait ce choix-là de la facilité d'aller prendre ce qu'on appelle des outils off the shelf, donc des outils tout prêts, clés en main, parce que ça semblait être plus facile. Alors, moi, c'est un sujet que je critiquais déjà depuis plus de 10 ans chez mes clients en disant, plus c'est facile à installer, plus ça va être chiant à gérer après, puisque moins vous maîtrisez l'outil. Donc, prendre des outils qui sont déjà gérés par quelqu'un d'autre, c'est déjà s'enlever ce degré de contrôle de l'outil, puisque on ne maîtrise pas ce qui se passe dedans. C'est souvent des boîtes noires. Ce que j'appelle des boîtes noires, c'est-à-dire que on vous délivre l'outil, vous avez la procédure pour l'installer, vous avez la procédure pour la connecter à tout l'écosystème qui est autour, vous avez le support de l'éditeur qui peut être de qualité et souvent entre lequel l'éditeur va pouvoir gagner beaucoup d'argent avec l'interdépendance, mais vous n'avez pas le contrôle de l'outil, vous pouvez pas le personnaliser en dehors de ce qui est permis dessus. Il y a même des outils, ils arrêtent de fonctionner dès que vous essayez de rentrer dedans, de là où c'est pas permis. Si on détecte que vous avez fait un plugin sur mesure, etc., et vous dites, bah non, vous n'avez pas le droit, vous l'enlevez immédiatement, ou vous perdez les droits d'usage de la licence. Donc, ce sont déjà des contraintes qu'on a. Donc, déjà, un premier point, dans ces outils, on ne sait pas ce qu'il y a. Que ce soit d'ailleurs, on va étendre le sujet, que ce soit les outils logiciels comme du matériel. On ne sait pas forcément ce qu'il y a dans les boîtiers. Et il y a des boîtiers technologiques qu'on installe chez nous, des équipements des fois, où on s'aperçoit que quand on les ouvre, quand quelqu'un a la décence de l'ouvrir pour les faire ce qu'on appelle du reverse engineering, ben, il y a des trucs qui n'ont rien à foutre ici. On a vu, alors vous allez me dire, oui, ça vient de la Chine. Ben, on a plein d'exemples de Chine, oui. On a plein d'exemples de Chine où la Chine nous envoie du matériel et on s'aperçoit que dedans, il y a des équipements qui n'ont rien à foutre ici, c'est-à-dire souvent, ce sont des puces en plus pour capter, par exemple, ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas déclaré et ça s'appelle un backdoor. Donc, ce sont des portes d'entrée-sortie pour permettre à l'État de le faire. Maintenant, est-ce que vous me dites, oui, mais c'est la Chine, c'est normal, c'est eux, les autres le feront pas. Alors, si c'est votre état d'esprit, vous êtes d'une naïveté dangereuse. Je vais vraiment être honnête avec vous. Moi, vous me faites peur. Parce que si la Chine le fait, ça veut dire que les États-Unis le font, l'Europe le fait. Je vous rappelle, il y a une dizaine d'années, en Europe, l'Europe a gueulé un grand coup parce qu'on s'est aperçu que les États-Unis écoutaient toute l'Europe. Nos gouvernements étaient écoutés. Je vous rappelle la paire Snowden, la NSA, enfin, on a des exemples. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de partir du principe qu'on a des pays amis. On n'a pas d'amis, on a des alliés stratégiques et on est dans une paix relative. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que l'intérêt d'un État, c'est d'obtenir des informations sur les autres États pour avoir un coup d'avance, pour éviter de se faire avoir. Soit pour avoir des avantages, on va dire, financiers, stratégiques, économiques, soit carrément pour avoir des avantages, on va dire, plutôt orienté sur l'aspect d'agressivité, voire militaire. Donc, on a cette notion-là. Les États ont besoin de savoir ce qui se passe chez les autres, y compris ce qu'on ne veut pas nous dire. Donc, les outils qu'on utilise aujourd'hui possèdent des failles de sécurité, involontaires parfois, mais aussi parfois volontaires. Ça s'appelle des backdoors. Ce sont des choses que les États font. Si vous me dites, ouais, mais Huawei, par exemple, les équipements réseau chinois, on sait qu'ils sont pourris. Bah, Cisco, vous croyez quoi? Vous croyez vraiment qu'ils n'ont pas discuté avec les services secrets américains et qu'ils n'ont pas l'obligation légale de mettre ça en place? En France, ça existe aussi, hein. On a l'obligation par l'État aujourd'hui de maximiser la taille des clés de chiffrement pour éviter que le chiffrement soit trop compliqué à détruire par l'État s'il y a besoin. Aujourd'hui en France, il y a des, alors au moment où on vous parle, on est au 1er avril, alors c'est pas une blague pour le coup, il y a au gouvernement américain, au gouvernement français, à l'Assemblée, des discussions sur une loi pour que les systèmes de chiffrement des communications chiffrées puissent être défaits par l'État. Donc on nous dit, oui, on veut bien, mais faut pas que ce soit trop compliqué, faut qu'on puisse y passer. C'est un peu comme quand vous allez à l'aéroport, vous avez le service de douane américain, TSA, hein, qui a des clés universelles pour vos valises. Et vos valises doivent être estampillées TSA avec un logo qui dit, au fait, si elle est cadenassée mais qu'il y a besoin pour des questions de sécurité nationale, on soupçonne qu'il y a une bombe ou de la drogue dans votre sac, il faut qu'on puisse l'ouvrir facilement. Donc, faites cette logique-là, elle a du sens. C'est un peu comme les pompiers qui viennent chez vous pendant l'incendie, ils ont des clés universelles. Ils ont tout un trousseau de clés pour ouvrir, par exemple, les ascenseurs, les cages d'escalier, etc. C'est fait exprès pour la sécurité. Et on peut se dire, bah, dans ce cas-là, ça a du sens, c'est logique, oui. Mais n'oubliez pas qu'ici, c'est un usage dérivé auquel on pense. Il y a des associations, hein, alors en France, on en a, ça s'appelle la Quadrature du Net, par exemple, qui s'occupe de ça, qui soulève ces aspects-là en disant, ben, on comprend que dans un aspect raisonnable, on puisse avoir besoin de backdoor dans des outils parce que il faudrait pour la sécurité de l'usage et une malversation pouvoir rentrer dedans. Mais on sait aussi qu'un État mal intentionné peut aussi utiliser de façon dérivée ces mêmes pratiques pour venir regarder ce qu'au font les citoyens. Donc, observer ses propres citoyens, ce qui est de la surveillance excessive, parce que le droit de la donne à la vie privée existe, il doit être respecté, sinon on n'est plus dans une démocratie. À partir du moment où un État ne respecte plus la vie privée des citoyens, on n'est plus dans une démocratie, hein, faut arrêter avec ça. La démocratie, c'est pas juste un terme, ça signifie un certain nombre d'obligations pour les États aussi, dont la liberté et l'accessibilité à une vie privée. Et ça peut être aussi utilisé, évidemment, pour un gouvernement, pour rentrer dans les outils d'autres États et des entreprises, afin de récupérer les informations, par exemple.
Oui, puis j'aime bien ton analogie, parce que l'État n'est que la représentation du citoyen. Donc, l'État, normalement, devrait être soumis au citoyen et non l'inverse. Et ça, on oublie un peu cette notion-là. Puis le fait du chiffrement est très intéressant. Et le fait que tu as amené les clés des pompiers, puis c'est là où ces analogies-là se brisent rapidement rendues sur Internet, parce que ces clés-là pour les pompiers ont un usage local, restreint, limité, pour la sécurité physique des gens dans lesquels ils doivent intervenir. Donc, cette clé-là ne me permet pas d'ouvrir un ascenseur en Chine ou ne me permet pas d'ouvrir un ascenseur aux États-Unis, mais me permet d'ouvrir un ascenseur où je suis. Donc, localement, l'effet est beaucoup plus restreint. Quand on arrive avec les clés de chiffrement, c'est un effet mondial, universel, et tout le monde y passe. On l'a vu effectivement avec l'Angleterre qui a essayé de justement imposer ça à Apple dernièrement. Il y a le vide-bouclier, des choses comme ça. Ça l'a ramené à l'esprit que c'est dangereux faire ce genre de choses-là, que de ramener ces clés de chiffrement-là ou de se casser-là de façon universelle. C'est pas juste l'Angleterre qui va être capable de casser ça, ça va être tout le monde qui va être capable de casser ça à terme. Et on l'a vu aux États-Unis avec leur passion pour l'écoute. Dans le fond, toutes les autres aiment beaucoup écouter, sont de très, très grandes oreilles, les Américains. Ils avaient installé dans les commutateurs téléphoniques, ça fait très, très longtemps que c'est comme ça, la capacité d'écouter toute communication en sol américain. Donc, il y avait cette capacité-là jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que les Chinois avaient pris contrôle de ces mêmes mécaniques-là. Fait que là, essentiellement, les Américains, dans leur volonté d'écouter tout le monde, on permet aux Chinois d'écouter tous les Américains au passage. Donc là, c'est la démonstration claire et sans équivoque qu'il y a un danger d'ouvrir cette porte-là. Et on ne parle même pas de la porte de chiffrement, on parle juste d'une porte d'accéder au commutateur téléphonique en sol américain qui a été infecté par les Chinois. Là, on parle littéralement de la clé de chiffrement qui permettrait à tout État voyou de venir écouter toute communication de quiconque sur la planète, de la communication avec la banque, d'une communication secrète d'un agent de renseignement qui aurait probablement des informations. Fait que c'est très, très vaste et très dangereux, cette avenue-là, en termes d'effets.
Et ça se voit aujourd'hui avec Doge, donc le programme d'efficience des États-Unis dirigé par Musk, parce que c'est lui qui le dirige.
Moi, je pense qu'il n'y a pas d'apostrophe entre le D et le E de déficience.
Ouais. Voilà, c'est ça exactement. Et où on met 6 gamins qui sortent d'université, qui a priori ont des petits soucis psychiatriques. Il y en a un qui était dans une organisation cybercriminelle il y a quelques mois. Qui n'ont aucune notion de ce qu'ils font, qui jouent avec des chiffres dans tous les sens, qui aujourd'hui rentrent dans les États fédéraux, dans les institutions fédérales, même là où ils n'ont pas le droit. Je rappelle qu'il y a eu plusieurs cas aujourd'hui hein, où des marshals ont accompagné les mecs armés pour pouvoir rentrer dans des institutions privées où ils n'avaient pas le droit de rentrer, pour aller regarder des données privées. Et on va me dire, mais c'est quoi le problème? Leur but, c'est de faire de l'amélioration. Non, leur but, c'est pas de faire de l'amélioration. Leur but, c'est de faire de pomper les données des citoyens américains pour alimenter les entreprises privées pour qu'elles fassent de l'argent avec. C'est ça l'objectif. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est ça le risque, en fait, qu'on est en train de courir. C'est que sous couvert, soi-disant, d'améliorer, on envoie des gens qui sont là pour faire du pompage de données, parce que leur boulot à eux, leur spécialité, c'est d'aller faire de la consommation de données, de l'analyse de données, et pas de l'amélioration. L'efficacité, si vous voulez améliorer un système, vous demandez aux gens qui travaillent dedans comment on peut l'améliorer, vous les écoutez. Vous savez quoi, souvent ça marche. Donc là, l'objectif, c'est pas ça. Je rappelle officiellement, vous pouvez aller voir les chiffres, qu'aujourd'hui, les États-Unis ont dépensé plus d'argent avec la gestion fédérale ces derniers mois que pendant le premier mandat de Trump. Donc aujourd'hui, en fait, leur système de Doge là, n'a aucun effet positif. Je dis bien aucun. Par contre, ils sont en train de pomper des données. Et là encore, alors eux, ils vont carrément plus loin, ils vont carrément physiquement dans les lieux et ils s'imposent comme autorité. Donc vous voyez, en fait, la dérive, elle peut être aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les outils, il y a carrément aussi la pratique. Donc on a des gens qui viennent de la technologie qui est mise sur un piédestal. Donc là, j'attire l'attention sur les gens qui nous écoutent, parce que si vous êtes là, techniquement, c'est que souvent, vous vous connaissez un peu en informatique ou c'est un sujet qui vous intéresse. Méfiez-vous, des fois, la technologie, aujourd'hui, dans notre monde, on a tendance à la mettre sur un piédestal, justement, en disant, c'est génial, c'est du progrès, ça fait des trucs super, regardez les IA, tout ça. Non, c'est des outils, tout ça. Il faut faire attention aux pratiques. Donc, on a tendance à mettre sur un piédestal aussi les personnes issues de cette technologie. Je prends l'exemple de Musk, je prends l'exemple de Jeff Bezos, je prends l'exemple de Mark Zuckerberg. On a des gens qui sont en admiration devant ces personnes. Moi, il faudra m'expliquer. Personnellement, c'est les personnes qui ont tendance à m'agacer plus qu'autre chose, pour rester très poli. Et les talents dans ces entreprises, c'est pas eux. C'est les gens qu'ils embauchent. Par contre, ils ont des gens brillants dans leurs équipes, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais c'est pas eux, les talents. Donc, il faut faire attention entre la réussite et le récit de cette réussite dont on nous fait part, et ensuite l'idée que s'ils ont réussi dans un domaine, ils devraient réussir dans tous les autres. Alors, moi, si je suis très doué pour monter un arbre, il n'est pas dit que je sois très doué pour réaliser un gâteau. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Donc là, aujourd'hui, on a une dérive due, justement, c'est pour ça qu'on parle de techno-état, où on a cette prédominance de la technologie, de la culture de la technologie. Un techno-état, c'est aussi un état qui est persuadé qu'on peut tout régler dans tous les problèmes de la planète, avec de la technologie. Donc on a une espèce de croyance, ça devient presque une religion de la technologie qui devient dangereuse. Donc il fait que là, on est persuadé que les gens sont doués dans leur métier, donc ils seront doués pour ça aussi. Ce qui est un raccourci, ça s'appelle un syllogisme, c'est-à-dire c'est une absence en fait de logique qui est cachée derrière un raisonnement qui a des apparences de logique.
Ouais, puis je pense que c'est le père ou le grand-père de Musk qui voulait justement déployer ce type, prendre le père, j'imagine, parce qu'il était au Canada, puis on a essayé de déployer ce genre de réflexion-là d'une technocratie, qui est le techno-État, qui était gérée par des ingénieurs, donc avec la présomption qu'un ingénieur, étant de ses études et de sa rigueur mathématique, pourrait gérer un État avec le même degré de rigueur, et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle appliqué à travers Musk, et Doge et tous ces éléments-là qui sont mis en application en pensant que des ingénieurs super brillants pourraient arriver à optimiser l'état comme on est capable d'optimiser un code informatique. C'est un peu de la folie de penser ça, puis un peu comme tu le dis, pas parce qu'on est bon dans le fait de développer du code, on devient bon dans la gestion d'organisations publiques ou de la population en général ou des services à l'État. Ça faisait de l'État pour les citoyens, puis c'est un peu ça aussi, je pense, qui est oublié dans l'histoire. Il y a des citoyens qui sont des humains qui sont servis par l'État et l'État est au service de ces citoyens-là et non l'inverse.
Il faut comprendre que les technopoliticiens sont alimentés par l'idéologie de Ayn Rand. Pour ceux qui connaissent, La Grève, Atlas Shrugged. Dans La Grève, c'est une écrivaine qui a théorisé et qui a fait un bouquin. Bon, je vous spoil le contenu du bouquin. En gros, c'est tous les technophiles et tous les patrons d'entreprise décident de faire grève et le monde s'effondre sans eux. Alors, je connais des boîtes où on a changé de patron, on est resté sans patron pendant 6 mois, et la boîte a continué à fonctionner. Par contre, vous enlevez les employés, au bout de 2 jours, il ne se passe plus rien. Donc, en fait, cette espèce d'idéologie absurde, parce que ça n'a aucun sens en soi, comme quoi, parce qu'on est patron, on est plus intelligent. Et au passage, aujourd'hui, on a des discours, donc faites attention à ça aussi, on a des discours aujourd'hui qui sont alimentés souvent par les courants extrémistes de droite, comme quoi, effectivement, les patrons d'entreprises qui sont souvent des blancs sont plus intelligents que les autres. Ils sont patrons parce qu'ils sont plus intelligents, qu'ils sont supérieurs. Et on a comme ça ce discours qui est alimenté. On va revenir un peu sur la souveraineté. Je pense que là, on a un autre sujet qui se dessine pour la suite. Mais la souveraineté, donc, c'est la souveraineté aussi donc, des données. Les données, aujourd'hui, c'est ce qui est principal, c'est ce qui alimente, c'est l'énergie qui alimente aujourd'hui nos applications, nos produits. Je rappelle que sans les données, notre IA ne vaut rien. C'est pour ça qu'on a des sujets là-dessus. Et d'ailleurs, le sujet des IA lui-même est un sujet important en souveraineté. Alors, le moment est intéressant pour nous. Parce que c'est ce qu'on disait en préparation. Je disais tout avant qu'on commence, on n'est jamais aussi efficace communautairement que quand on a un ennemi commun. Et Donald Trump est en train de se dessiner volontairement comme l'ennemi de la planète entière. Donc, il est en train de motiver aujourd'hui des populations. Alors, je vais parler moi de ce que je connais avec l'Europe, qui est en train de se bouger le cul. Vladimir Poutine avait compté là-dessus quand il avait envahi l'Ukraine en disant « l'Europe va se disloquer, ils vont rien faire ». Banque de bol pour lui, c'est qu'on s'est associé, on s'est bougé le cul. Pour une fois, c'est bien, c'est très bien, je vais pas me plaindre. Et là, l'Amérique est en train de faire le deuxième coup de butoir. C'est-à-dire que ce mec, Trump est tellement stupide qu'il voit pas qu'en fait, il est en train de pousser l'effet inverse, c'est-à-dire à pousser à ce que l'Europe est une association de paix commerciale. Voilà, la volonté d'exister de l'Europe, c'était de dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, écoutez, on va arrêter. C'est pas une bonne idée de continuer, sinon on va y passer. L'idée, ce serait peut-être qu'on se mette d'accord et qu'on se mette d'accord sur des échanges économiques fluides entre nous. Et cet élément, en fait, a tellement bien fonctionné que ça a agrégé d'autres pays autour qu'on dit, bon, écoutez, à partir du moment où on fait du business ensemble, je pense qu'on n'a pas de raison de se taper sur la gueule. Sauf que c'est en train de devenir une Europe aujourd'hui de la défense. Avec l'idée même, par exemple, que la sécurité nucléaire française puisse être la sécurité européenne de plusieurs pays. Puisque la France est une puissance nucléaire, comme l'Angleterre, ça veut dire qu'on n'a pas du tout le même pouvoir de pression sur les autres États. Et donc, on sait que si on vient taper sur la France répondra. Et donc, si on est dans une attaque extrême, comme les Russes l'ont menacé il y a quelques mois, c'est un scénario possible. Pas forcément envisageable, pas très souhaitable, on est d'accord, mais c'est une possibilité puisqu'on a l'arme nucléaire. Donc, c'est une arme de dissuasion. On dit, attention, moi je l'ai, si vous m'emmerdez trop, si vous allez trop loin, on peut aller jusqu'à l'utiliser. Et donc aujourd'hui, on est en train de penser, on est en train de verbaliser quelque chose qui pensait être impensable. Je rappelle que par exemple, l'Allemagne, pendant très longtemps, disait non, on n'en veut pas. Le nouveau chancelier allemand fraîchement nommé, il n'est même pas encore officiellement nommé, a déjà formulé l'idée qu'il étudiait la possibilité d'accepter. Quelque chose auquel il était totalement réfractaire il y a un an. Donc aujourd'hui, on en est là. Donc on en est à s'associer en Europe et à donner de la puissance aux moyens. Donc on voit ça aujourd'hui, par exemple, pour le traitement de la donnée, avec le fait que certaines IA européennes, comme Mistral, l'IA française, par exemple, est en train d'être poussée par l'État. Alors peut-être pas encore assez, pour le coup, pour prendre la place, mais il y a une opportunité pour nous pour créer des solutions. Alors, on va peut-être essayer de finir avec les solutions, justement, pour être un peu plus souverain. Alors, technologiquement, pour être souverain, la solution ultime, c'est de tout faire en national ou en communautaire. C'est-à-dire, à défaut d'avoir des logiciels purement français, il faudrait avoir des logiciels européens. Alors là, effectivement, on a un problème, c'est qu'on a un gouffre à franchir, parce que effectivement, on sait très bien qu'on a créé une dépendance très 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 forte ces deux ou trois dernières décennies. Mais on a des acteurs locaux qui commencent à se poser fraîchement la question, et on a des initiatives d'OS européens, d'applications européennes, de cloud européens. Alors,
oui. Celle-là aussi, je parle du côté canadien aussi, on est dans cette réflexion-là, puisque nous, on est étant beaucoup plus collés sur les Américains, cette connivence-là qu'on avait avec eux était encore plus marquée. Déjà là, nous aussi, on est en train de marquer le pas. Il y a plusieurs initiatives qui sont en train de se mettre en place justement pour justement venir affirmer ce genre de choses-là. Puis, je vais faire une parenthèse sur l'open source. Je suis un peu fasciné parce que tous les États à travers le monde investissent des sommes colossales dans du développement informatique, dans des systèmes internes. Et je me suis toujours demandé pourquoi c'est de l'argent public, donc du peuple, donc devrait retourner au peuple ces éléments-là. Pourquoi les États ne retournent pas ce code-là en open source? Et incidemment, de contribuer au collectif. Et quand on parle de souveraineté, je trouve que c'est un axe très important, puisque lorsqu'on parle de OS ou d'éléments de base qui sont fondamentaux au fonctionnement global, je crois qu'il y a un intérêt très fort à ce que l'État ou les États viennent contribuer comme dans des cas d'open source, donc d'affirmer une indépendance en ayant chacun une contribution au code global et que tout le monde réutilise un code dans lequel il peut contrôler eux-mêmes notamment, donc de contrôler le contenu, s'assurer qu'on est autonome, mais en même temps de contribuer à l'œuvre globale comme on l'a fait en littérature, on le fait en musique, bien, ça serait important que des paliers de la société aussi importants que ça, l'État vienne justement donner des moyens accélérés pour ça.
Pourquoi les États ne le font pas? C'est simple, c'est que les États aujourd'hui sont générés par des gestionnaires, pas par des gouvernants. Un gouvernant, il doit œuvrer pour le bien de tous. Un gestionnaire, il vient faire de la comptabilité. En France, on a Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un ancien banquier qui est persuadé que l'entreprise, c'est une entreprise. Donc, comme le gestionnaire dans ton entreprise qui t'a fait acheter Windows parce que c'était plus facile, il préfère acheter Windows parce que c'est plus facile. Sauf que nous, on sait très bien que c'est pas plus facile d'avoir Windows. On sait très bien que l'open source nous permettrait d'avoir le contrôle. Et si on réfléchissait en termes de gouvernance et de souveraineté, alors oui, tu as tout à fait raison, les pays devraient investir dans des solutions communautaires propres à leur propre structure, à leur propre identité. Ça demande un effort supplémentaire. Donc là, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que la situation, c'est ce qui fait qu'on fait ce sujet aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on en parle maintenant, c'est ce qui fait que la situation est tellement tendue, tellement critique, que dans les chemins possibles, il y en a qui peuvent être assez catastrophiques. Et donc, si on veut assurer une résilience au-delà de ce moment pivot qu'on est en train de vivre, il va falloir bouger les fesses pour rentrer là-dedans. Une vraie souveraineté, effectivement, c'est un effort considérable de réautonomiser les pouvoirs publics et les entreprises privées en fournissant une alternative aux outils édités par nos amis américains. Ce qui est difficile, c'est d'une part, c'est que les outils américains ne sont pas mauvais en soi. Il y en a plein qui sont très bien. Moi, je travaille pour AWS en partenariat avec eux. Leur solution, elle est très bien. Windows est un très bon OS en soi. Enfin, on n'a pas envie de s'en passer parce que c'est confortable. Mais c'est pas juste une histoire de confort. Il s'agit d'une histoire de respect de la souveraineté des États aujourd'hui qui est remise en cause parce que l'État qui est en face de nous, lui-même remet en cause cet équilibre d'alliance qui pouvait tenir la route, qui était déjà risqué, mais le risque n'était pas assez haut pour qu'on prenne l'envie d'aller au-delà de ça. Et vous avez des acteurs français, moi, qui commencent à faire ça. On a des fournisseurs de cloud français qui essayent d'avoir leur propre couche, leur propre kernel, leur propre pile, leur propre stack, entièrement développé par eux-mêmes directement, parce que finalement, c'est la clé. Alors oui, ça demande du boulot, mais si on prend chaque besoin individuellement, ce qu'on a à redévelopper, alors comme tu le dis, déjà, il y a de l'open source, donc il y a déjà plein d'alternatives qui existent. Et ensuite, si on n'essaye pas de tout faire d'un coup, peut-être qu'en faisant progressivement, en poussant à la culture de la migration vers des adoptions open source ou plus maîtrisées, on peut arriver déjà à une certaine forme d'autonomie, en tout cas d'indépendance. Il faut déjà poser le sujet sur la table.
Oui, puis un exemple français, c'est OVH qui, à bien des égards, construit bien sa pile au complet. Il y a de l'approvisionnement matériel qui est très spécifique aussi, qui construisent leur propre équipement. Donc, ils ont déjà des sources. C'est sûr que ça n'avance pas à la vitesse qu'on l'a vu chez AWS ou Microsoft, où les sommes investies pour arriver rapidement à quelque chose ne sont pas les mêmes. Mais cependant, on voit qu'il y a un geste concret qui est posé, une volonté d'aller dans ce sens-là. Donc, avec des moyens plus modestes que les trois géants ont pu déployer pour y arriver. Mais malgré tout, on voit un bel avancé, des belles stratégies qui sont faites chez OVH qui arrivent à matérialiser ce que tu mentionnes essentiellement de gestes concrets pour arriver à des solutions qui permettent un certain degré d'autonomie. Puis même pour le Canada, c'est le fun parce que OVH a un centre de données qui est situé au Québec en ce cas-ci. Je ne sais pas s'ils en ont mis, il me semble qu'ils en ont mis un deuxième et commencent déjà à multiplier leurs efforts qui, à certains égards, pour un Canadien, OVH est beaucoup plus souverain pour nous que peut l'être un Microsoft qui est soumis à des règles américaines dans lesquelles ils peuvent être beaucoup plus invasifs.
On le voit en Europe, en France, avec le projet Blue, où Microsoft s'est associé avec des acteurs français pour pouvoir en fait développer une couche matérielle purement en France, mais la couche logicielle reste Microsoft. Et ce qu'on disait en off avant de commencer, mais c'est une fausse souveraineté, puisque Microsoft, demain, peut nous débrancher l'activation des licences, planter tous les outils ou les mises à jour, ou nous dégrader, ou faire appel à la loi américaine pour rentrer dans nos données. C'est pour ça que quand on parle de cloud souverain, mais qui embarque des outils américains, c'est une souveraineté de papier, c'est une souveraineté de déclaration. Puisqu'en fait, techniquement, oui, vous êtes en France, mais je vous dirais, Amazon fait la même chose, hein, ils sont en train de développer un nouveau cloud souverain en Allemagne, un cloud souverain européen. Alors, bon, la souveraineté européenne est déjà une notion à discuter. Mais en plus, ça reste AWS. Donc, c'est-à-dire, si demain vous me dites, moi je vais dans la région France ou je vais dans le cloud souverain européen d'AWS en France, enfin en Allemagne, vous êtes tant qu'à faire rester sur le cloud sur AWS en France dans ce cas-là. Au moins vous êtes physiquement sur le territoire français et puis vous faites du outpost chez vous ou vous faites un cloud mix entre privé et public chez vous et Amazon. Ça aura la même valeur, vous aurez le même rapport à la souveraineté qui sera relatif puisque vous interdépendrez avec un outil américain qui pourra prendre la main potentiellement vous couper le service. Donc, si on veut vraiment être pleinement souverain, la seule stratégie aujourd'hui est que les États investissent ce champ et soutiennent les initiatives privées ou fournissent un financement pour les initiatives communautaires et poussent les entreprises, pourquoi pas même avec des réductions d'impôts ou des financements ou des cofinancements pour les entreprises qui investissent et qui fournisseraient des alternatives à défaut nationales, au moins communautaires pour l'Europe, puisqu'on a la possibilité. Enfin, on ne manque pas de talent en Europe. Et en plus, on a plein d'Américains qui vont migrer maintenant, qui vont se barrer, entre les scientifiques qui sont obligés de se barrer, et les étudiants qui ne pourront plus y aller, etc. Enfin, on a une opportunité, en fait. Cette situation très toxique qu'on est en train de vivre peut être aussi la situation qui fait faire un virage, et je le souhaite, moi j'espère, un réveil dans les communautés autres que les États-Unis, puisque les États-Unis, ce n'est qu'un territoire, finalement, et motive les gens à se bouger les fesses, à investir ces champs-là, et à se dire il est temps d'un changement. Alors, on a du mal à le voir, parce qu'on voit qu'il y a des États qui ont tendance à revenir vers les États-Unis aujourd'hui, quand même en Europe, sur l'armement, en disant « Ouais, on va quand même prendre des F-35 chez vous. » Ouais, mais avec toujours le même risque que ces appareils ne décollent plus, ne fonctionnent plus correctement, parce que les États-Unis sont passés au braquet suivant. Trump va pas partir comme ça. Aujourd'hui, l'avenir est très incertain. Et celui qui me dit « Non, mais c'est bon, il va s'arrêter dans 6 mois. » Non. Non, non. Franchement, aujourd'hui, moi, voilà, vous avez plus de chances de prédire les nombres gagnants du loto que ce qui va se passer dans les 2 prochaines années à venir.
Oui, donc la carte devant lui est prévisible. Il suit un plan. Même si ça a l'air un peu aléatoire, il y a quand même l'exécution du plan qui est là. Puis comme tu le mentionnes, puis moi, j'ai un autre vocable, c'est le chaos est source d'opportunité. Et c'est ce qui se passe. Ce que l'agent Orange fait, c'est de créer du chaos. Et c'est sa grande force, essentiellement. Et l'effet du chaos, c'est que ça force une réorganisation des différents éléments, notamment en Europe. Il y a une réorganisation qui se fait. Donc, chaque pays maintenant se réorganisent différemment. Donc, comme sur une table de billard, ben, on a cassé les choses, les boules se sont placées. Et là, les choses ont changé de position suivant cette nouvelle organisation-là. Est-ce que c'est mal? J'aurais tendance à dire non, parce que tout changement n'est pas mal. Cependant, ça va être un peu inconfortable pendant probablement plusieurs années parce qu'on doit réfléchir à beaucoup de choses. Là, il y a beaucoup l'armement qui est une réflexion, mais en termes de logiciel aussi, tous nos acquis qu'on avait doivent être réfléchis différemment. Et là, on arrive, tu parlais de fainéantise, ben, les gens n'aiment pas beaucoup réfléchir, ça demande des efforts, ça demande de faire des affaires. Et je pense qu'on est justement à un retour de, on doit réfléchir nos choses, on doit moins déléguer à des firmes, notamment américaines, cette fainéantise-là qui nous a été acquise pendant la dernière décennie.
C'est surtout qu'on a acheté l'idée qu'on ne sait pas faire alors qu'on savait faire. La France a été une des premières nations en informatique. Donc, on avait des puissances, on avait Thomson, on avait des boîtes comme ça qui étaient très, très bonnes et qui ont raté le coche et qui ont pas su ensuite rattraper, se positionner. Et on a eu le confort d'acheter chez les autres, que c'était plus facile finalement d'acheter chez les autres. Et donc, on a eu cette fainéantise. Mais comme tu le dis très bien, le point de départ, c'est le chaos. Mais c'est de la gestion de changement. Hein. John Pitcotter le dit, le point de départ, c'est remuer la merde pour voir à quel point ça va pas, pour initier le constat qu'il faut que ça change. Oui, c'est un peu inconfortable. L'inconfort, en fait, il est relativement léger. Après, on n'est pas tous égaux face au changement. Je vous conseille le bouquin qui s'appelle « Who Move My Cheese hein, », qui m'a piqué mon fromage pour comprendre comment les gens sont différents face au changement. Mais on n'est pas tous excités de la même façon face au changement, mais ça passe, en fait. Ça passe et au bout d'un moment, on se dit « Bon, ok, tu sais quoi ? Moi, ce truc-là, moi, j'y peux rien. Par contre, qu'est-ce que je peux faire de ce contexte-là ? Moi, je peux pas choisir ce que Trump fait. Par contre, je peux choisir ce que je fais de ce que Trump fait de nous. Donc, moi, je peux très bien m'investir et dire, bon, bah, je vais développer une autre activité dans un autre secteur ou proposer une approche moins interdépendante de leurs outils pour aller améliorer les choses. C'est juste une question de voir l'opportunité de ce qu'on a à gagner à cet endroit-là.
Et c'est ça l'expression de la souveraineté. C'est de dire, OK, l'autre n'a pas d'effet sur moi. Je décide moi-même de ce que je fais de mon avenir et c'est probablement ça où probablement certains États ont de la difficulté à réaffirmer leur autonomie, donc leur souveraineté technologique face à ce genre de choses-là pour dire, OK, ben Américains, vous ne décidez pas l'avenir. On a chacun notre capacité de le déterminer et là, l'inconfort réapparaît parce que clairement, ce muscle-là n'a pas été utilisé depuis déjà un certain temps.
Ben, ce risque n'était pas assez concret. On disait oui, mais c'est vous qui le dites en théorie, c'est parce que vous êtes des spécialistes de ça, vous nous emmerdez à nous rappeler des trucs auxquels on n'a pas envie de penser. Jusqu'au jour, ça devient réel. Vous savez, c'est comme les clients qui vous disent mais j'ai jamais eu de problème jusqu'ici. Jusqu'au jour où tu as un problème. Donc, c'est ça la résilience, c'est se préparer au scénario de ce problème va arriver. Même s'il a peu de chances d'arriver, il va arriver. Et donc, ben, on y réfléchit, on y pense. Ben, là, sauf que là, c'est pas il va arriver, c'est qu'il est en train d'arriver. Donc, comment on fait pour réagir à ça? Donc, on espère qu'en tout cas, ça vous aura apporté quelques éclaircissements sur ce sujet. Et puis, s'il y a besoin, vous venez nous voir, on en parle, si vous voulez qu'on approfondisse le sujet aussi.
Ouais, bon, ça c'est un sujet très grand. On l'avait abordé aussi sous l'angle des zombies pour l'Halloween, qui est un autre facette de ces éléments-là qui sont exprimés d'un point de vue plus citoyenne dans ce cas des zombies. Mais c'est quand même un élément d'affirmation d'autonomie individuel ou étatique ou des compagnies face à l'échiquier mondial qui est changeant. Puis je pense qu'on a acquis beaucoup de paresse et de fainéantise de par la paix relative qu'on a depuis la Deuxième Guerre mondiale. Wow! il y a de l'action à faire chez vous. Il y a de la visite. Donc, cette fainéantise est arrivée de cette paix relative-là. Et là, je pense qu'on rebrasse et moi, je n'y vois que de l'opportunité là-dedans. Je vois beaucoup de positifs, essentiellement, pour tout le monde. Et d'innovation aussi, parce que je pense qu'on était... je le voyais plus à l'Europe. L'innovation s'était calmée, disons, en Europe maintenant depuis longtemps. Et là, je pense une belle opportunité que l'innovation européenne réémerge avec des regards différents et une diversité différente qui va nous amener ailleurs. Et ça, je ne vois que du bon à travers cette chose-là. C'est juste un peu triste pour les Américains, mais ça... rendu là, c'est pas notre...
Ils ont voté, ils ont choisi, qu'ils assument.
C'est ça, c'est pas notre responsabilité, c'est la leur.
C'est les premières victimes de leur propre choix. Donc il y a une leçon à tirer aussi pour les prochaines élections partout. Si vous choisissez des agents de chaos, bah, vous serez les premières victimes de ça. Ça ne vous sauvera pas. Aujourd'hui, il se passe l'opposé de tout ce qui avait été déclaré.
Tout à fait. Donc, on va conclure sur ça et le fait que ton chien a déclaré son existence, oui, et l'existence de quelqu'un qui passait par chez vous. Donc, très, sujet très intéressant. Comme tu, je vais rappeler ce que tu as mentionné, venez nous voir, venez nous parler. C'est des sujets qui nous passionnent. Et justement, si vous avez des idées ou des angles supplémentaires que vous désirez qu'on aborde, gênez-vous surtout pas.